Genre, et il n'était jamais si heureux que lorsqu'il se faisait dire par les interprètes en chasse devant le grand hôtel et à la porte de chez Cook, Wantagid, ce, à Paris, tout était libre, simple et anonyme. Son père, notaire au Châtelet, avait épousé la fille d'un gantier de Belleville, qui possédait une fabrique de 10 ouvriers. Tous deux aimaient la musique et formaient un couple excellent. Le jeune Charles-Pierre avait grandi rue de la Coutellerie, dans un grand appartement au plafond bas. Dès le printemps, il se mettait aux fenêtres et regardait les équipages décrire devant le perron de l'hôtel de ville les demi-cercles solennels. Lorsque sa mère jouait des mazurkas, ces scènes protocolaires apparaissaient au jeune Pierre comme un spectacle de féerie, les uniformes de toutes les couleurs, les derniers bonnets à poils, les landaus et les victorias se déplaçant au son de Frédéric Chopin. Il s'appliquait à les dessiner, penché sur les feuilles du papier à lettres de son grand-père, qui portait fièrement la mention « fournisseur de S.A. le duc de Maugny », des feuilles épaisses et riches à l'odeur de voiron et des gorges guérimant. Plus il avançait en âge, plus il y mettait de fièvre, inquiet de voir les uniformes changer et ses parents vieillir, pendant que le papier à lettres se chargeait d'en-tête nouveau et accueillait à la fin le nom paradoxal de Napoléon III romain. Haussmann à cette époque traçait des boulevards impossibles à barricader, où la cavalerie même pouvait charger sans encombre. L'adolescent parisien se réfugia dans les montagnes, où l'ordre ne le suivrait pas. Plus tard, il raconterait à Augustin les ruelles et les maisons disparues, le passage du Saumon qui abritait des demoiselles à l'entresol, et l'un de ses parcours favoris, pour retrouver un ami souffleur à la Comédie-Française, la rue des Martyrs, la rue Fléchier, la rue Le Pelletier, la traversée des boulevards, le passage des Princes et la rue de Richelieu jusqu'au théâtre. Au Butte-Chaumont, Charles-Pierre se sentait l'âme d'un Suisse et contemplait la ville d'en haut de l'ère de Rousseau aux portes de Genève. À Montmartre, il était plus bucolique et descendait le chemin des ruelles Saint-Vincent en s'attardant au pied des vignes plantées de Thomery. Souvent, le dimanche après la messe, il s'échappait vers le Mont-Valérien, les chaussures vernies couvertes de poussière et la veste en serge noire jetée sur le bras, le missel à la main. Lorsque le soir tombait sur Paris, il revenait en fiacre, les pieds douloureux et la tête confuse, le long des avenues semées d'allumeurs de réverbères. Il avait transmis à son fils le goût des vagabondages. Augustin avait aimé très tôt les spectacles de la rue. Pour la vie imaginée des passants, pour les enseignes vieillies des quartiers pauvres et les jardins publics, Augustin aurait traversé la ville à pied. Mais son père et lui ne s'étaient presque jamais promenés ensemble. À dîner, ils se racontaient leurs marches solitaires. Parfois ils se succédaient dans les mêmes lieux, ainsi l'atelier d'un relieur, rue des Grands Degrés. Les murs y étaient semés d'affiches républicaines. Un homme jeune encore, grand, au visage imberbe, y travaillait avec sa femme sous la protection des articles de la foi, « Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » De temps à autre, Augustin leur apportait des ouvrages de médecine, puis ils s'asseyaient près de la presse, et eux continuaient de s'affairer comme s'ils n'avaient pas été là. À l'automne, levé tôt le matin, Augustin s'en allait voir la brume se dissiper autour de Notre-Dame avant de gagner l'hôpital. En été, quand il le pouvait, il remontait, après son service, le jardin du Luxembourg jusqu'à l'observatoire. Il lui arrivait, l'obscurité venue, de rêver devant les fenêtres éclairées des appartements les plus riches, aux vies qui s'y déroulaient. Était-elle paisible ou tourmentée? Quelqu'un, entre ces beaux murs en pierre de taille, enfermait-il un regret qu'il n'avait pu guérir? Puis il passait son chemin. L'hiver, par temps de neige, il allait à Montmartre, et jouissait du spectacle de cette masse urbaine blanche et grise, aux cheminées fumantes, où des milliers d'existences anonymes suivaient leur cours parallèle, dessinant des figures analogues à celles d'un ballet gigantesque dont personne n'aurait écrit la chorégraphie, mais qui pourtant se développerait avec régularité tout au long des siècles. Là, de pauvres gens avaient peiné et peineraient encore, là, dans cet hôtel vide, Brantôme avait cédé au charme de la douce Limeuil, là Balzac avait écrit et était mort. Voici le chemin de Bonaparte au retour d'Italie et la maison de Pierre Larousse, voici Saint-Eustache et la pierre tombale de M. de Chevert qui, sans aïeux, sans fortune, s'éleva jusqu'à la dignité de maréchal de France. La synagogue des Juifs allemands, rue du Chaume, et un peu partout les magasins des Bougnats et les réduits bretons dispersés autour de Montparnasse. Voici le Parlement, rendez-vous des lingères et des libraires, des entremetteurs des amants, des lettrés et des filous, des princes, des courtisans et de la robe et de l'autre côté de nobles murs, les scies et les brodequins pour la vérité. Voici le bovillier où l'on servait les oreilles de la belle Aurore et le poulet en poire à la Marat. Voici le restaurant voisin, où son père avait dîné. Il se vengeait en acceptant la ville qu'à certaines conditions. Il fallait, pour être aimé, qu'elle se soumît à certaines règles, et d'abord aux règles du temps qu'il fait. La rue Tournefort, c'est un jour de pluie qu'il faut la voir, avec ses pavés luisants montant vers la tour Clovis au-dessus des arbres du lycée Henri IV Romain, par beau temps elle ne vaut rien. Le quai du Louvre, c'est le contraire, quand le soleil frappe les écailles des poissons dans leurs aquariums et réveille dans les cages à oiseaux des bruits.